Merci beaucoup Pierre, merci pour cette invitation si prestigieuse, hein, puisque vous avez une vision de l'histoire religieuse dans une perspective anthropologique extrêmement riche et qui me touche et qui me permet aussi d'aborder aujourd'hui avec vous dans le cadre de votre réflexion sur la religion et la guerre, sur les problèmes de guerre sainte, si tant est que cet oxymore a une raison d'être, à vous reparler de ces, disons, ces élites ou ces consciences de l'Occident, ces minorités qui ont considéré au XIIe et au XIIIe siècle, au cœur même de la grande poussée de la croisade, un mouvement qui accapare beaucoup de force en Occident et qui est extrêmement prestigieux, eh bien, il y a eu des esprits forts qui ont eu le courage de se lever contre cette croisade et c'est ce que je vais essayer autour de leur texte, autour de leur écriture, que je vais essayer de vous faire part de leur réflexion. Bien sûr, après, je suis médiéviste, je ne prétends pas faire de la philosophie, de dire ce qui est vrai ou pas, mais tout simplement de vous présenter, d'essayer de comprendre le pourquoi de leur pensée. Alors, juste pour mémoire, quelques dates sur la croisade. 1095, le pape Urbain II, qui est clunisien, bénédictin, donc, mais qui est dans ce mouvement de paix de Dieu, de maîtrise de la violence en Occident et de son exportation vers un idéal plus en accord avec la pensée globale de l'Église à l'époque, fait l'appel de Clermont. Aussitôt, il y a cet engouement sans précédent vers l'idéal, vers la reprise de Jérusalem. Donc, Jérusalem est recouvrée par les Latins en 1099, les Latins qui rompent avec les Byzantins et qui créent leurs propres États latins d'Orient, mais en Syrie-Palestine. Mais très vite, il y a les premiers revers contre les Turcs et en particulier la perte d'Édesse au nord de la Syrie. Donc, une seconde croisade menée par l'empereur et par le roi de France, Louis VII, échoue lamentablement au siège de Damas, notamment, 1145-1147. Et puis, 90 ans après la prise de Jérusalem, Saladin la reconquiert à la suite de la bataille de Latine en 1187. Donc c'est une crise profonde chez les Occidentaux, une crise de conscience, il y aura des tentatives de reconquête de Jérusalem tout au long du XIIIe siècle. L'une des caractéristiques de la croisade, c'est que désormais elle est détournée. Détournée d'abord en 1204 par le pillage, par le sac de Constantinople, au détriment de l'unité, si tant est qu'elle existait déjà, entre les orthodoxes et les catholiques latins. Et puis, à nouveau, Simon de Montfort, qui n'avait pas voulu participer au sac de Constantinople, c'était un pur et dur qui avait lâché les croisés lors de la quatrième croisade, se trouve à la tête de la croisade contre les Albigeois, donc qui dure une quinzaine d'années jusqu'à la reprise du domaine du comte de Toulouse par la couronne de France. Il y aura d'autres tentatives, la cinquième croisade, avec l'échec de, certes, la prise de Damiette, mais à la frontière du Caire, les troupes chrétiennes sont battues. La sixième croisade de 1226, alors je reprends la numérotation traditionnelle des croisades, même si ce n'est pas tout à fait cela, hein, c'est... Il y a toujours dans les interstices de ces grandes croisades des chevaliers qui partent à titre plus ou moins d'initiative, enfin collective, certes, mais moins spectaculaire, pour prêter main forte aux latins d'Orient. Donc la sixième croisade où Frédéric II, Stupor Mundi, comme l'appelle le chroniqueur anglais Mathieu Paris, la stupeur du monde, l'empereur romain germanique, part excommunié parce qu'il a trop tardé à embarquer. Et c'est un empereur excommunié qui, un pactisant, un négociant avec un descendant de Saladin, un Ayyoubide, un Adil, qu'il parvient donc à pénétrer dans Jérusalem et à s'y faire couronner. 1244, Jérusalem est définitivement repris et Saint-Louis, Louis IX de France, n'a de cesse que de relancer la croisade avec ces deux dernières croisades, la 7e et la 8e, 1250, vous le savez, ça échoue lamentablement, là encore, à la Mansoura, en Égypte, et puis la toute dernière croisade à Tunis, où Saint-Louis, le 25 août, meurt les bras en croix en s'écriant « Nous irons à Jérusalem ». Bien sûr, il y a ce binôme, Jérusalem terrestre, Jérusalem céleste, qu'il faut avoir présente à l'esprit, puisque la croisade a aussi une certaine spiritualité sur laquelle, peut-être en creux de critique qu'elle comporte, nous pourrons revenir. Et puis, les latins sont définitivement chassés par les Mamelouks en 1291, par la reprise de Jérusalem. Là encore, juste pour mémoire, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, je vous ai parlé d'Édesse qui tombe en 1145, donc un petit comté qui dure une quarantaine d'années. Le royaume arménien de Cilicie, où des latins épousent des princesses arméniennes, donc ça fait partie aussi de ces relations très complexes entre les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident, les croisés, hein, mais en tout cas avec les Arméniens aussi monophysites fussent-ils, ça s'est bien passé, il y a eu des mariages, il y a eu une sorte de royaume commun. Et puis la principauté d'Antioche, qui est d'abord détenue par les Normands de la famille de Hauteville, puis par les Poitevins, par Raymond d'Antioche, dont je vous parlerai un peu. Le comté de Tripoli, qui est tenu par une dynastie toulousaine. Et puis le royaume de Jérusalem, où les dynasties se succèdent. Hein. D'abord les Bouillons flamands, puis les Angevins, puis les Lusignans Poitevins, etc. Donc c'est aussi un monde très divisé, hein, cette aristocratie, qui veut très souvent la couronne. Alors, quand on parle de la croisade, il faut savoir que c'est une institution avec laquelle nous avons beaucoup de mal, parce que nous vivons dans un monde qui a fait la part, qui a su distinguer, et c'est une des forces du message évangélique, la règle d'or des évangiles, sur le plan politique, à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César. Donc nous sommes dans une société qui fait bien la distinction entre ce qui est de l'ordre spirituel, de l'ordre de la conscience, de l'ordre personnel, et ce qui est de l'ordre social ou politique. Hein, et effectivement, c'est très clair pour nous, mais pour les gens du Moyen-Âge, une société où chacun vit, est immergé dans des structures de sociabilité, dans un groupe, une société holique, comme on dit d'une façon un peu pédante, eh bien, c'est très difficile pour ces gens de se soustraire de leur groupe. Et y compris l'Église, ils sont tous débaptisés, ils se tiennent d'abord tous pour membres d'une chrétienté, donc pour considérer que la spiritualité relève davantage de l'intériorité que de l'extérieur. Donc c'est une institution, et la guerre fait partie aussi de la chrétienté pour la plupart des gens. C'est d'autant plus difficile à comprendre que le terme croisade lui-même n'existe pas à proprement parler. On voit apparaître chez Bernard le Trésorier, donc une continuation en langue française d'Orient de la grande chronique du Guillaume de Tyr, latine, le mot croiserie. Alors ce mot provient du latin croquet signatis, ceux qui ont cousu la croix sur leur vêtement, hein, c'est donc ceux qui ont pris le signe de la croix, puisque en principe le croisé est un pèlerin, et ce sont les termes qui renvoient à l'idée de voyage, de pérégrination, départ pénitentiel, qui sont le plus souvent attachés à la notion de croisade dans les textes du XIIe et du XIIIe siècle. Via, la voie, iter, caminum, donc chemin, passatium, le passage d'outre-mer, on le trouve aussi en français, et les croisés, ce sont des pèlerins. Alors, donc des gens qui accomplissent un acte pénitentiel, sacrificiel, qui quittent tout. Et là encore, je vous ai dit que dans cette société, les gens sont profondément inclus dans des sociétés, ce qu'il y a de pire pour eux, c'est le bannissement. Le pèlerinage lui-même, c'est un détachement suprême aussi, surtout que ces gens partent à leurs frais, qui ont dû hypothéquer leurs terres pour se procurer des armes, des chevaux, qui vont assurer eux-mêmes leur ravitaillement. Donc cette dimension, et sans parler des sacrifices, bien sûr, endurés au cours de ses voyages, et a fortiori dans les combats. Alors, le terme « guerre sainte », il vaut ce qu'il vaut, mais il est très galvaudé, d'autant plus depuis qu'il y a eu le djihadisme dernièrement. Je ne l'aime pas beaucoup, mais on peut le garder si vous voulez, mais je préfère l'idée que de revenir aux personnes qui ont vécu cette expérience, qui est une expérience à la fois militaire et religieuse, et pour eux c'est une guerre sanctifiante, une guerre pénitentielle, une guerre qui leur fait endurer des souffrances comparables à celles du Christ sur la croix pour expier leurs péchés ou les péchés de l'humanité. Donc il y a cette idée de rédemption qui est derrière la croisade. Il y a aussi, bien sûr, la volonté divine. On est dans une société où le providentialisme, la prise en compte de la volonté de Dieu, de son programme de salut, de l'économie du salut, est profondément enracinée dans les mentalités. Et vous le savez, quand Urbain II a prononcé l'appel de croisade au concile de Clermont, qui au départ était un concile de paix à l'Occident, mais guerre contre les ennemis de l'Église, contre l'Islam, eh bien, la foule s'est décriée « Deus vult », Dieu le veut, Dieu le veut, et c'était donc une raison supplémentaire pour partir. Alors, Dieu le veut d'autant plus que le pape, son représentant, son vicaire sur terre, proclame par un document particulier, par une bulle, la croisade, et que la croisade est bicéphale. Il y a certes un chef militaire, un noble, un aristocrate habitué à faire la guerre, mais vous avez aussi auprès de lui un légat, un envoyé du pape qui le conseille, plus ou moins bien, puisque on reprochera par exemple au légat de la 5e croisade, à Pélage, l'échec lamentable de la croisade à l'approche du Caire. Les participants prononcent un vœu, là encore un vœu pénitentiel, un vœu de croisade, et très souvent ils le font dans la foulée d'une grande manifestation de joie collective ou d'extase collective. Ils se laissent entraîner au cours de ces conciles. Après, s'ils se rendent compte qu'ils ont pris la décision un peu vite et qu'ils ne peuvent pas l'accomplir, par exemple parce que leur épouse s'y oppose. Et là encore, le pape Urbain II a écrit une lettre aux Flamands juste après le concile de Clermont, quelques années après, pour dire qu'il fallait à tout prix demander la permission à sa femme. Sa femme ne pouvait pas partir. Donc on peut revenir sur son vœu, mais alors il faut, comme très souvent dans cette société, quand on ne peut pas accomplir son service militaire, il faut s'acquitter d'une taxe pour racheter son vœu. Et puis, pour ceux qui partent, bien sûr, il y a l'indulgence. C'est une des premières fois dans l'histoire de l'Église où, et ça coïncide aussi avec la dévotion envers le purgatoire, où la prise en compte de cette période pénitentielle qui a toujours existé, bien sûr, depuis les origines, puisque pas tout le monde à la mort va directement au ciel, depuis l'Église primitive, on a offert des suffrages pour les défunts, mais ce qui est nouveau, c'est de commencer à donner des périodes liées au purgatoire, au temps que l'on va passer après la mort à expier ses fautes avant de pouvoir entrer au ciel. Donc indulgence pour les péchés que l'on confesse, et cette indulgence est liée aux efforts donnés par la croisade. Donc toujours cette idée d'expiation, de sacrifice de ses péchés. Mais ensuite, vous avez sur le plan du droit, et du droit canonique notamment, le droit de l'Église, d'autres privilèges, protection des biens des personnes. Si vous partez, vous avez le moratoire de vos dettes, puisque très souvent vous avez hypothéqué vos terres pour obtenir les sommes nécessaires pour votre départ. On doit aux pèlerins l'hospitalité. Je vous ai dit qu'un banni très souvent est susceptible d'être réduit non plus en esclavage, mais en servage, ou d'être oppressé par le premier venu. Ici, on doit à ces pèlerins qui ont cousu la croix sur leur robe de l'hospitalité, exemption des péages. Donc vous voyez un certain nombre aussi de privilèges qui accompagnent le pèlerin. Alors face à cette institution, face aussi à cette utilisation de la violence au nom du Christ, au nom de la croix, il y a eu, comme je vous l'ai dit au début, un certain nombre d'esprits éclairés qui l'ont contesté au nom des évangiles, au nom du message du Christ. Et d'abord, je vous présenterai ceux qui ont pris une position d'une façon radicale, le pacifisme, donc une lecture littérale des évangiles et des mots les plus forts de Jésus à l'encontre de l'usage de la violence. Ensuite, je vous parlerai de critiques beaucoup plus accidentelles, si vous voulez, ou qui ne touchent pas l'essence de la croisade, mais à certains de ses aspects négatifs. Et puis, si j'ai le temps, je vous parlerai aussi des liens qui sont très complexes entre le rejet de la croisade et au profit de la mission, et un retour donc aux sources évangéliques pour la prédication du message du Christ plutôt que par la violence. Alors revenons donc à la lecture des évangiles. Le Nouveau Testament n'est pas politique tel que nous l'entendons de nos jours. Les problèmes relatifs au pouvoir sont très peu traités. Il y a, je vous ai dit, ces mots du Christ, à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César, au moment de payer l'impôt. Il y a aussi saint Paul, bien sûr, je crois que c'est dans l'Épître aux Éphésiens, tout pouvoir vient de Dieu. Donc il y a une certaine soumission aux autorités politiques, y compris si celles-ci, les autorités impériales, persécutent les chrétiens dans un premier temps. Mais un certain nombre de versets que vous avez sous les yeux insistent sur pacifisme, si vous voulez, sur la une condamnation très ferme de la violence, très nette, claire, radicale. Matthieu 5, 39, 41, si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, tends-lui de la joue droite. Si quelqu'un te force à marcher avec toi 1000 pas, fais-en 2000. Donc, on se rappelle aussi une scène sur laquelle je reviendrai à plusieurs reprises, parce qu'elle est essentielle aussi pour comprendre ces critiques. C'est le passage où, après la scène, enfin scène, c'est E, sans grave N-E, après le repas où le Christ institue l'Eucharistie, il y a cette phrase mystérieuse où Jésus dit à ses disciples « Combien d'épées avez-vous ?» avant de partir pour le jardin des Oliviers, pour Gethsémani, 2 épées, et Pierre utilisera une de ses épées pour couper l'oreille à l'un des gardiens du temple qui vient appréhender Jésus. Et le Christ lui dira, « Pierre, remets le glaive dans le fourreau, crois-tu que je ne peux pas demander à mon père de m'envoyer plus de 12 000 légions d'anges ?» Mais tout cet esprit apparaît aussi, la charité radicale, dans les épîtres. Là, je vous ai cité celle de saint Paul, la première aux Corinthiens. Pourquoi se venger plutôt que d'accepter de subir quelque injure ou fraude? Alors, revenons sur ce passage des deux glaives mystérieux qui a donné lieu à une exégèse extrêmement longue, développée tout au long du Moyen-Âge et surtout au moment de la croisade, hein, au XIIe siècle, puisque le XIIe siècle, c'est aussi une période de renaissance intellectuelle où, autour des écoles cathédrales, les penseurs débattent. C'est le début de la dialectique telle que nous la connaissons. Pierre Abélard écrit au début du XIIe siècle un opuscule qui s'appelle « Sic et non »,« Oui et non ». C'est toute la méthode de voir les arguments pour, les arguments contre, et faire la synthèse. Si vous lisez la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, tout est fondé sur ce qu'on appelle la scolastique, la méthode pratiquée dans les écoles. Et on ne néglige pas pour autant l'exégèse, on revient toujours sur les textes, en particulier sur le Nouveau Testament, mais aussi l'Ancien Testament, les textes du Père, des Pères de l'Église. Alors, l'exégèse de deux glaives, je vous ai dit tout à l'heure que le Christ dit « Combien d'épées avez-vous ? » 2, cela suffit, mystérieux, à Gethsémani, dans le Jardin des Oliviers, au moment où le Christ est pris pour être jugé, Pierre sort l'épée, coupe l'oreille d'un des serviteurs du grand prêtre, par la suite, donc, ses serviteurs, nous disent les synoptiques, ou je ne sais pas si c'est saint Jean, s'appelait Malchus. Alors, il y a toute une exégèse autour du terme Malchus, ça pourrait être Mélique, un araméen, Donc Médic, c'est le roi, et il y a un glaive donc, qui est capable de couper l'oreille du roi, du pouvoir temporel, donc, qui désormais ne peut plus écouter la parole de Dieu, ne peut plus se sauver, puisqu'il n'a plus d'oreille. Autrement dit, il y a une épée, et c'est la théorie de De Glaive, qui est l'épée spirituelle, qui est détenue par le pape, qui excommunie, qui tue l'âme, qui empêche donc de se sauver en l'écartant de la connaissance de la parole de Dieu. Par opposition au glaive matériel, au glaive temporel, et alors tout le débat est de savoir est-ce que ce glaive qui est détenu par l'empereur, par le roi, et qui est de l'ordre de la coercition, qui tue le corps, qui mutile les corps, et non pas l'âme, est-ce qu'il est détenu par le pape qui le remet à des pouvoirs temporels ou pas, donc les auteurs du XIIe siècle discutent de cela. Donc il y a ce glaive, d'ailleurs l'épître aux Hébreux, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure aux émoiles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc il y a cette parole qui est aussi un glaive, le glaive spirituel. Donc autour de là, vous avez un peu ce que je vous disais, c'est le début de ce qui aboutira, bien sûr, en 1905 en France, à la séparation, mais jusqu'alors, cette distinction fait partie inhérente du message du Christ, et bien entendu, le Moyen-Âge a eu beaucoup de mal à l'intégrer, puisque le Moyen-Âge sortait d'un système, d'une pensée politique, où l'empereur romain était le pontifex, c'était lui qui faisait le pont entre les hommes et les divinités. Dans toutes les sociétés traditionnelles, le pouvoir est associé à la sacralité, et le christianisme, c'est un peu le livre de Marcel Gauchet et de tant d'autres, c'est la religion de la sortie de ces panthéismes, de cette religiosité qui imprègne tout le social et tout le politique. Quand vous prenez les penseurs du XIIe siècle, je vous ai parlé de leur méthode scolastique, ils n'avancent jamais rien sans voir les arguments contre. Pour et contre, sic et non. Et vous le voyez dans le grand traité juridique compilé en 1139, c'est une compilation de textes, par Gratien, un maître de l'école de Bologne, en Italie. Gratien intitule son recueil de textes juridiques, donc des décisions conciliaires, des décisions d'évêques, de la correspondance du pape, il appelle cela la concordance des discordances, concordantia discordiantium. Donc là encore, il voit, mais le Christ a dit que ce que Dieu a mis, nul ne peut le séparer pour le mariage, et pourtant, on peut séparer des mariages au nom de la consanguinité, du cousinage des conjoints. Voilà. Donc il y a une contradiction, donc il réfléchit, voit les arguments pour, contre, il analyse les textes, et au début de la cause 23, où il est question de la guerre, eh bien, Gratien cite tous les versets pacifistes des évangiles ou des épîtres que je viens de vous donner, et en conclusion d'un prologue de la cause 23 sur la légitimité ou pas d'utiliser les armes quand on est chrétien, il conclut. De tout ce texte, il en ressort que la guerre est un péché. Voilà, ça c'est la première chose qu'il dit, mais ensuite, bien sûr, pendant des pages et des pages, il va apporter d'autres témoignages qui montrent que le chrétien peut faire la guerre avec des nuances. Donc, stricto sensu, vous dit-il, la prohibition de renoncer aux armes ne s'adresse qu'au clerc, c'est la question 8 de la cause 23, et puis il ne faut pas lire, bien sûr, il y a les quatre sens de l'écriture, et vous pouvez toujours adopter le sens allégorique ou anagogique ou spirituel, enfin moral de l'écriture, mais il y a aussi le sens littéral, le sens historique de tous ces textes. Et bien au sens littéral, l'extérieur du corps ne convient pas à ces versets, mais il faut les prendre au sens moral, de la vertu de patience, de l'âme. Donc, quand le Christ dit « tant ta joue droite », ça veut dire au sens de l'intention première, qu'il faut accepter avec patience les coups durs des autres. Voilà. Donc, vous voyez, les pour et les contre, et ça fait partie de cette forme adventiste, de cette façon de procéder de nos ancêtres du XIIe siècle, ce qui fait que vous aurez toujours des textes qui contesteront la croisade, et c'est admis. Parfois, quand je préparais ce livre, j'ai croisé Place de la Sorbonne un collègue, donc de Paris 1, je lui ai parlé de livres que je préparais, il m'a dit « c'est pas possible, ça n'existe pas, on les brûlait », enfin c'était un peu l'idée qu'il voulait me transmettre. Non, ça existe, parce que les gens du Moyen-Âge sont beaucoup plus dans le débat, dans la dialectique, peut-être que nous, j'allais dire, en tout cas dans les milieux universitaires, nous sommes très libres de dire ce qu'on pense, mais il faut toujours éviter que, disons, politiquement correct ne nous coupe les ailes, et les gens du Moyen-Âge, donc, sont capables de voir les arguments pour et contre. Hein. Voilà des copies. Bah, le décret, bien sûr, c'est le grand traité juridique que vous avez un peu partout en Occident. Quand on réfléchit à la façon dont ces gens voyaient la guerre, eh bien, il faut d'abord revenir au plus grand théologien latin avant le XIIIe siècle, avant Thomas d'Aquin, celui qui est le plus influent, qui est Augustin d'Hippone. Augustin a réfléchi surtout, mais dans la cité de Dieu, il s'est penché sur le problème de la guerre. Hein. Bah, c'est un évêque, c'est quelqu'un qui a en charge la défense de sa ville. D'ailleurs, il est péri en défendant son diocèse contre les Vandales en Afrique du Nord. Alors, il vous dit... je veux reprendre toute la tradition romaine. Augustin, avant sa conversion, maîtrise parfaitement le stoïcisme. Hein. Il s'est rapproché d'ailleurs du christianisme grâce à la lecture de Cicéron. Il reprend toute la tradition romaine autour du jus gentium, le droit des gens, sur la possibilité ou pas de faire la guerre et sur les droits de l'ennemi. Et il vous dit, il existe une guerre juste doit répondre à quatre traits. Le premier, elle doit être proclamée par l'autorité légitime. Nul ne peut prendre la liberté de proclamer lui-même, de déclarer lui-même la guerre s'il n'est pas légitimement au pouvoir. Cette guerre doit être défensive pour défendre, pour récupérer un territoire d'une attaque extérieure. Vous voyez, quand il y a quelques années, l'intervention en Irak des Américains, j'ai entendu le mot croisade, j'ai entendu aussi guerre préventive. Je me suis dit, mais ça, c'est une rupture colossale avec nos traditions occidentales. C'est là où on part vers quelque chose qui n'a pas de raison d'être. Ces gens considèrent que vous ne pouvez pas riposter si vous n'avez pas été attaqué auparavant. Alors, bien sûr, les gens qui vous parlent de la croisade au Moyen-Âge vont vous dire, mais nous ne faisons que recouvrer, que récupérer Jérusalem qui a été injustement conquis par Roma à la fin du 7e siècle, donc par les armes, alors que c'était une ville chrétienne. Mais il y a aussi une nuance, Augustin utilise le terme d'ultio. Ultio, ce n'est pas tout à fait de la vengeance, de la vendetta, c'est plutôt la punition. C'est-à-dire que pour le bien de l'agresseur, on doit aussi l'attaquer, le punir, pour réparer son injure, certes, mais aussi pour l'aider à s'amender. C'est un peu compliqué, vous voyez. Dernière idée, bien sûr, le christianisme insiste beaucoup sur la conscience, sur la droiture d'intention, sur l'intériorité. Il faut que ceux qui déclarent la guerre, qui la font, doivent en même temps être détachés, ne pas se laisser emporter par la brutalité, par la cruauté, dont la patience, la bienveillance, même l'amour envers l'ennemi, doit être pris en compte. Alors, toutes ces idées, Augustin, donc je vous ai donné des photos des vestiges d'Annaba, de sa ville, d'Hippone, au nord de l'Afrique, Augustin, très vite, quand le christianisme devient la religion d'État, à partir de 380, et que l'Empire l'adopte au détriment du paganisme, qui est désormais persécuté, il y a le problème qui se pose, bien sûr, de la participation des chrétiens à la guerre et de ce qu'on doit faire avec cette violence, puisque les chrétiens, jusqu'alors, bien sûr, il y avait des légionnaires chrétiens et il y avait des soldats, mais il y avait une certaine réticence aussi. Hein, bon, c'est controversé, c'est débattu. mais pour savoir ce que les chrétiens, est-ce qu'ils étaient des pacifistes radicaux dans l'Église primitive ou pas, probablement pas, mais ils ne pouvaient pas jurer, prêter serment ou sacrifier aux idoles, à l'empereur, alors que quand on entrait dans l'armée romaine, il fallait à tout prix faire ce sacrifice qui heurtait la conscience de la plupart des chrétiens. En tout cas, saint Augustin, très vite, a dit bon, qu'on pouvait utiliser la force brute, la violence, contre l'hérésie. Hein, il y avait des problèmes des désordres qui étaient liés à des mouvements religieux, les circonvallations au nord l'Afrique. Donc, le pouvoir épiscopal peut demander au pouvoir civil d'user de la force pour réprimer l'hérésie, pour rétablir l'ordre moral ou pour défendre la hiérarchie de l'Église. Dans certaines lettres, il prend cette position. Donc, vous voyez, c'est déjà un glissement vers autre chose que la guerre juste. Alors, je reviens à la veille de la croisade. Il y a eu un vaste mouvement qui a consisté à dégager l'Église, ou en tout cas le monachisme, l'épiscopat, le clergé, de l'emprise du patronage laïque, un patronage qui parfois était tout à fait convenable pour la spiritualité des gens, puisque dès qu'un prince territorial, un empereur, voyait qu'un monastère n'avait plus, les moines commençaient à ripailler, inviter des femmes, que sais-je, ben, il envoyait ses troupes, il chassait l'abbé, un peu perverti, il mettait à la place un abbé beaucoup plus austère, beaucoup plus sérieux. Donc, je veux dire, parfois nous avons cette vision, la réforme grégorienne a fait beaucoup de bien, mais il faut savoir aussi que le système précédent avait sa logique aussi, hein, le patronage laïque, même si pour nous, bien sûr, dans le sens de la distinction entre l'un et l'autre, n'a pas et beaucoup plus logique, bien sûr. Alors donc, dans cette réforme grégorienne, les papes rencontrent très vite l'opposition de l'empereur romain Germanique, qui lui a des armes, qui lui combat la papauté romaine, dans le cadre de ce qu'on appelle la querelle des investitures, ils ont soulevé le problème de l'utilisation des armes au pape pour protéger l'Église contre l'empereur. Pour eux, pour Urbain II, pour ses successeurs, cette guerre-là contre l'empereur, pour protéger les États pontificaux, par exemple, c'est une guerre juste. Il parle aussi d'une guerre du Christ, une guerre pour la préservation des libertés de l'Église, libertas ecclesiae, hein, ou libertas romana, la liberté romaine, Urbain II, précisément, qui est un peu un disciple d'Hildebrand, enfin, du grand Grégoire VII, qui reprend systématiquement ses idées, qui est expulsé d'ailleurs d'Italie par l'empereur, qui doit se réfugier en France, et bien Urbain II proclame précisément la croisade, tout comme les moines tunisiens, qui ont eu un rôle très important dans le développement de ces idées d'écarter toute émission du pouvoir temporel sur la vie monastique, sont aussi hostiles, parce qu'ont aussi promu la croisade. Alors, vous avez des esprits, des génies, enfin, je trouve des gens qui sont un décalage par rapport à leur temps. Pierre Damien, lui, pourtant, est un des maîtres à penser de le cardinal Camaldu, enfin, un maître à penser de la réforme grégorienne. Il dit non. La violence pour faire valoir les droits de la papauté, ça n'a pas de raison d'être, c'est une aberration. Voici ce qu'il écrit à l'évêque de Fermo en 1062. Le roi Ozias fut frappé de la lèpre pour avoir usurpé l'office sacerdotal. Donc c'est une allusion au livre historique de la Bible. Que ne mériterait pas le prêtre qui prend les armes réservées en exclusif aux laïcs? Bon, ça c'est une tradition dans l'Église, bien sûr. Les prêtres, les clercs ne peuvent pas se fier ni par le mariage, ni par les relations conjugales, ni par le versement du sang. Mais il va beaucoup plus loin. Il faut distinguer les fonctions respectives qui reviennent à l'empire du sacerdoce. Le roi doit user des armes du siècle et l'évêque doit ceindre l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. On revient à cette théorie dont je vous parlais tout à l'heure. Le Fils de Dieu descendit du ciel par la charité et vainquit le diable par la patience. Charité, patience. Munis de ces deux vertus, les apôtres ont fondé l'Église que leurs champions, les saints martyrs, ont propagé par leur triomphe sur les supplices et la mort. Donc, on se laisse tuer, mais on ne fait pas de violence. C'est comme ça que les premiers chrétiens ont converti l'Empire. Il n'est jamais permis de saisir les armes à fer pour la foi universelle, dont dit l'Église. Pourquoi donc des troupes protégées de Aubert, donc des côtes de Mailles, et armées d'épées se déchireraient-elles pour les biens terrestres et transitoires de l'Église? Quand prévalent les saints, jamais les hérétiques ou les idolâtres ne sont exterminés, mais au contraire, ces saints acceptent d'être exterminés pour la foi catholique. Vous voyez, et puis il agrémente cela d'une anecdote. Il était une fois un monastère dont les terres avaient été dépouillées, prises, occupées par un seigneur, un châtelain local, proche, et un jour. Les moines se sont posé le problème de lever des troupes pour se défendre. L'abbé leur a dit pas du tout, on va les rencontrer tous, toute la communauté, mais sans aucune arme, à pied, pieds nus, seigneur dit Dieu. Le seigneur dit Dieu lève une armée pour battre, enfin pour frapper ces moines, pour les expulser, mais quand la troupe arrive devant les moines, eh bien tout le monde est converti, ils se mettent à genoux, les guerriers, ils tombent du cheval, etc. Voilà. Donc c'est ça ce qu'il faut faire plutôt que d'utiliser les armes. Alors, il y a quelque chose qui frappe beaucoup les gens, c'est la naissance des ordres militaires. Saint Bernard de Clairvaux a mis tout son prestige sur la balance de ce qui peut sembler aux yeux du droit canonique de l'époque une aberration, que des clercs, et a fortiori des moines, se souillent par le versement du sang, qu'ils pratiquent la violence. Il y est parvenu avec cet opuscule qui s'appelle « De laude novae militiae », l'éloge de la nouvelle chevalerie, et Bernard a des cisterciens qui ne sont pas d'accord avec lui. Il y a un de ses disciples, vous savez que Bernard est allé assez tôt avec une trentaine de ses camarades des écoles cathédrales de Paris, de l'école cathédrale de Paris. Donc c'était un homme qui avait un pouvoir de séduction extrêmement fort. Parmi eux, vous avez au nord de Poitiers, près de Châtellerault, une petite abbaye, l'abbaye de l'Étoile, qui a été réformée par des cisterciens. Isaac, un Anglais, qui est allé l'abbé, et un jour il fait un sermon et où il s'en prend à son maître. Voici ce qu'il dit dans son sermon, où ironiquement il tourne en dérision l'éloge de la nouvelle chevalerie de Bernard. Il est né un monstre nouveau, une nouvelle chevalerie. Vous vous souvenez, Bernard dit les Templiers, c'est un ordre nouveau, et il fait des grands éloges sur les Templiers, qui, selon un mot d'esprit, obéit au cinquième évangile. Il n'y a pas de cinquième évangile. Son but est, à coup de lance et de bâton, de pousser les incroyants vers la foi et de spolier licitement et de trucider religieusement celui qui ne porte pas le nom du Christ. Ils appellent à outre martyrs ceux parmi eux qui tombent au cours de leur pillage. Vous voyez, le martyr est pacifiste. Le martyr se laisse tuer pour témoigner de sa foi au Christ, mais il ne porte jamais d'armes. N'autorise-t-il pas la cruauté du fils de la perdition, c'est-à-dire l'antéchrist qui doit venir? On est dans une perspective eschatologique, hein, je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais il est évident que, en grande partie, si les gens partent à Jérusalem, c'est pour dégager le mont des Oliviers, d'où le Christ est parti lors de l'ascension de toute puissance donc non chrétienne, pour lui permettre de revenir à la fin des temps, la parousie. Mais auparavant, il y aura l'antéchrist. N'autorise-t-il pas la cruauté du fils de la perdition qui doit se jeter dans l'avenir sur les chrétiens? Comment lui serait-il objecté la mansuétude du Christ, sa patience et sa façon de prêcher? Le Christ se laisse crucifier, le Christ se laisse bafouer et il accepte les insultes, les crachats de ses bourreaux par pur pacifisme, si vous voulez. Jean de Salisbury, alors dans le milieu autour de Thomas Becket, vous avez entendu parler du crime dans la cathédrale, 25 décembre 1170, archevêque de Canterbury, il s'est entouré des plus grands intellectuels de son temps. L'Angleterre avait un temps de retard par rapport aux autres royaumes vis-à-vis de la réforme grégorienne, de cette distinction entre le temporel et le spirituel, et le grand Jean de Salisbury, c'est lui qui a repris la phrase de son maître de Chartres, Bernard, ne sont que des nains juchés sur des épaules de géants qui voyons beaucoup plus loin qu'eux, donc ce sont des gens qui vivent dans la tradition, mais dans la modernité aussi, eh bien, il écrit « Les Templiers censés consacrer le sang du Christ versent le sang humain ». Et bien sûr, les Templiers, c'est très important pour la croisade, puisque dans les États latins, les guerriers ne doivent qu'une quarantaine, une cinquantaine de jours au titre de l'aide féodale à leur seigneur, les aristocrates laïcs. En revanche, vous avez des célibataires qui se consacrent corps et âme à la défense des royaumes latins. Ce sont les Templiers, ce sont les Hospitaliers, les autres ordres, les Teutoniques, l'ordre du Saint-Sépulcre, et notamment avec une vingtaine d'hommes, ils peuvent tenir des forteresses aussi superbes que le crâne de chevalier, qui, Dieu merci, n'a pas été trop abîmé par la guerre de Syrie. Alors, les Templiers, donc détestés par beaucoup d'intellectuels anglais de l'époque, proches de Becket, par Gauthier Mapp, c'est un peu compliqué parce que c'est un courtisan d'Henri II. Mais voici ce qu'il écrit. C'est à Jérusalem qu'ils prennent le glaive des Templiers pour protéger le christianisme. Là où Pierre s'était vu interdire de le prendre pour défendre le Christ. Vous vous souvenez, Pierre remet l'épée dans le fourreau. C'est lui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Pierre est le premier pape. Jésus lui interdit d'utiliser les armes. Tout à Jérusalem, tout le contraire à Gethsémani, tout le contraire des Templiers. C'est là aussi que l'apôtre a appris à chercher la paix par la patience. Je ne sais pas, en revanche, qui enseigne aux Templiers à vaincre la force par la violence. Alors, vous voyez, Gauthier a une culture juridique très profonde. Il a lu le code de Justinien, où il en a commenté quelques passages. Vim vi repellere, repousser la force par la force, est une des maximes du code de Justinien. Il est attribué à Ulpien, si je ne me trompe, un jurisconsulte romain, c'est un peu le principe de la guerre juste dont je vous ai parlé. Ils prennent le glaive et ils périront par le glaive, vous vous souvenez de ce passage des évangiles, les Templiers affirment pourtant, toutes les lois et tous les droits permettent de repousser la violence par la violence. Le Christ pourtant, renonçant une telle loi, au moment où Pierre frappait son couille, il s'interdit de commander les légions d'anges, les 12 000 anges dont il a été question au début. Or, les Templiers ne semblent pas avoir fait le meilleur choix. Et puis, il y a le providentialisme. Si j'ai un peu de temps, je reviendrai sur cette idée. Si la croisade était voulue par Dieu, ça marcherait. Or, on voit qu'on ne cesse de reculer depuis la conquête de Jérusalem. En effet, sous leur protection, nos frontières intersaintes ne cessent de reculer et celles de nos ennemis d'avancer. C'est par la parole et non pas par la voix du glaive que les apôtres conquirent Damas, Alexandrie et une grande partie du monde que depuis l'épée a perdu. David, qui avançait sur Goliath, lui disait « Tu viens contre moi avec des armes et moi je viens à toi au nom du Seigneur afin que toute cette multitude sache que le Seigneur ne sauve pas par le glaive. » Bon, Adam de Persègne, donc Persègne c'est dans le Perche, dans le Bamen, cet homme qui participe à la croisade, c'est un cistercien aussi, il est très déçu il écrit « Si les prêtres qui veulent partir à la croisade étaient des bons bergers et non pas des mercenaires, ne préféreraient-ils pas mourir pour leur brebis ?» Le berger, donc, sa vie pour ses brebis, dit le Christ, « plutôt que de leur extraire le lait et la laine afin de partir en croisade. » Si aux soins des églises dont ils ont la charge, ils préfèrent la croisade, ils ne seront pas sauvés parce qu'ils n'aiment pas ceux qu'ils laissent tomber de la sorte. Un prêtre doit s'occuper de ses soins dans sa paroisse, il ne faut pas qu'il parte. Il y a cette idée du voyage vu d'une façon négative. Depuis, je crois que c'est Horace déjà qui avait dit cette phrase que l'on retrouve souvent au XIIe siècle, « Ce n'est pas parce qu'on change de ciel qu'on change d'âme. » Ce n'est pas le voyage extérieur qui vous améliore, c'est le voyage intérieur. Vous voyez, donc ils réutilisent ce genre d'argument. Ils sont dépourvus de charité. Toujours l'idée que le christianisme est la religion de la charité. Et cette phrase qui est superbe, le Christ n'a pas versé son sang pour acquérir Jérusalem, mais les âmes qu'il faut sauver. Donc on change complètement de perspective. Et je vous ai mis le gisant de Richard Cœur de Lion à Fontevraud, tout près de là. Relativement près, parce que Adam a été aussi son confesseur. Alors, conclusion de la première partie, et je vois avec horreur qu'il est 10h22, donc je ne pourrai que parcourir très vite la deuxième partie, peu importe, et la mission, ça sera pour une autre année. Ces penseurs oscillent entre deux pôles. D'une part, la guerre juste, qui considère légitime de reconquérir Jérusalem, et les lieux saints chrétiens à l'islam, puisque les tenants de la théorie de la guerre juste vis-à-vis de Jérusalem vous disent, mais après tout, c'est par les armes que les musulmans ont pris Jérusalem, donc dans une perspective augustinienne, nous pouvons faire de même. Mais l'autre pôle plus radical est ce pacifisme évangélique qui empêche toute violence, surtout au clergé, d'où les critiques aux Templiers. Et puis aussi, bien sûr, revenir sur cette distinction, cette séparation qui est si importante dans nos conceptions politiques actuelles entre le temporel et le spirituel. Alors, à côté de cela, vous avez des critiques qui apparaissent constamment chez les intellectuels du temps, même sans être particulièrement hostiles à la croisade. Mais quand la croisade échoue, et elle échoue très souvent, eh bien, il y a un certain nombre de critiques. La première critique concerne à quoi bon tous ces efforts de guerre, à quoi bon tous ces impôts, ces dîmes saladines, le dixième des biens, y compris de l'Église, donc ces biens qui auraient dû être destinés par l'Église à l'assistance, à la charité, à l'éducation, qui partent à la guerre, les musulmans eux-mêmes, Saladin a écrit une lettre pour encourager ses troupes en disant, mais attendez, les chrétiens ont regardé tous les sacrifices qu'ils font pour défendre leur religion, ils prodiguent la vie, le coup, la rage, et leurs troupes impures, les armes, tout cela, et il y a l'effort de guerre qui est derrière, et vous, vous faites pas autant, donc c'est objectivement, il y a cela. Donc, la croisade est très exigeante, et il y a un côté purification, pénitence, nous en avons parlé au début, et a fortiori, il y a d'autant plus de sensibilité au manquement, au péché, au travers, si vous voulez, aux fautes des croisés. Et surtout, la croisade, il faut la voir dans une dimension eschatologique, je ne reviens pas sur ce point, puisqu'on l'a évoqué ensemble, les chrétiens qui partent devraient être là pour se sanctifier. Or, très souvent, ces chrétiens, disent leurs critiques, ne font que commettre davantage de péchés en terre sainte. Hein. Il faut se mettre dans la mentalité de l'époque aussi. La conception du temps est cyclique. Quand les historiens écrivent l'histoire de leurs contemporains, les chroniqueurs, ils ont toujours en tête les livres historiques de l'Ancien Testament, les livres des rois. Enfin, à l'époque, il y a 4 livres de rois. Maintenant, nous distinguons les 2 livres de rois et les 2 livres de Samuel. Ou bien la Genèse ou l'Exode, qu'est-ce que racontent ces livres? Ils racontent que le peuple élu, Israël, le peuple hébreu, connaît au début une grande austérité, une grande exigence, est fidèle à l'alliance avec Yahvé, mais, et Dieu Yahvé leur accorde des victoires, la royauté davidique, mais cela ne dure pas longtemps, puisque le peuple élu sombre dans l'idolâtrie, dans la corruption des mœurs, et il est déporté, que ce soit à Babylone, où il est défait, et ensuite il faudra une régénération, une restauration et un retour. Donc c'est un peu la même idée, ça se passe en plus en Terre Sainte, et les croisés doivent connaître aussi, puisqu'ils ont connu la victoire au début quand ils sont partis sans rien, et qu'ils deviennent qu'ils sont corrompus, donc il faudra qu'après qu'ils soient détruits, et qu'il y ait une restauration ensuite, donc une conversion collective. Et cette idée apparaît très souvent. Alors il y a certains intellectuels qui sont très lucides sur la nature humaine. J'adore ce texte de Michel Mann de Würzburg, anonyme, qui parle de ceux qui partaient en croisade. Il y avait de tout. Il y avait des gens qui avaient un côté desperado, qui avaient un côté sauvage. Il y en avait d'autres, au contraire, qui étaient très purs dans leurs intentions. Les intentions des hommes de cette troupe hétéroclite étaient variées. Les uns, avides de nouveautés, voulaient découvrir des terres étrangères, voilà, les touristes. D'autres, poussés par la pauvreté, souffrant des privations chez eux, désirait se battre non seulement contre les ennemis de la croix, mais contre les amis des chrétiens pour fuir la misère. Donc ça, c'est les, disons, les colons qui cherchent des terres. D'autres enfants souhaitaient se libérer du poids de leur dette, du service dû à leur seigneur, ou des peines pour leurs crimes, donc des desperados, une sorte de colonie pénale, la Terre Sainte. Ils simulaient en sans zèle, hypocrisie, mais ils s'empressaient de partir pour échapper aux poursuites. À peine s'en trouvait-on quelques-uns qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal, mais que guidait une intention sainte et salutaire. Ceux-ci étaient prêts à verser leur sang par amour de la majesté divine et pour le bien des saints des saints, pour le bien du temple, du cœur du temple. Laissons toutefois cette affaire à l'examen de Dieu seul, qui est l'unique à pouvoir sonder les cœurs et à les connaître. Vous voyez toujours cette idée de la conscience, cette idée de l'intériorité, de la droiture d'intention. Alors, parmi les critiques qu'on formule contre les croisés sur leur comportement, vous avez d'abord leur violence débridée. Bon, je ne vais pas trop approfondir cette question. Il y a un auteur avec lequel la lecture est très complexe. Hein, c'est pourquoi je suis en train de débat avec Philippe Buc, qui est un grand historien de l'Université de Vienne. Lui, il considère qu'Albert préconise les massacres de Jérusalem. Je pense, peut-être j'ai été trop naïf dans la façon de lire dans un premier temps son texte, c'est plus compliqué que cela, mais il me semble que Albert est assez nuancé malgré tout, et il condamne les massacres de Jérusalem. Mais en tout cas, il est très dur contre les massacres, les pogroms qui ont accompagné l'avant-croisade avec Pierre l'ermite, et tous ces croisés qui ont fini noyés dans le Danube après avoir donc essayé de tuer ou d'imposer la conversion forcée aux Juifs d'Occident. Ils avaient en effet péché en sa présence par leurs autres impuretés, par leur fornication. De plus, à la suite d'un grand carnage, dont les pogroms, ils avaient tué les Juifs exilés, certes ennemis du Christ. Vous voyez, il est toujours très nuancé. Mais pour le meilleur et pour le pire, mais il ne l'avait pas fait pour lui rendre justice, mais parce qu'il convoitait leur argent. Dieu est un juste juge qui ne commande à personne de prier sous le joug de la foi catholique contre son gré et par coercition. Cupidité aussi, après la violence, qui est mise en valeur, bien sûr, dans le sac de 1204, le sac de Constantinople. Les Francs jetèrent par terre le bouclier de Dieu qu'ils avaient porté jusqu'alors pour se protéger du bouclier du diable. Les gens n'ont jamais compris, et le pape Innocent III, le premier, avec sa sainte colère, non pas la sainte colère, comme nous a dit une politicienne il y a quelques années, nous vous avions délégué notre pouvoir, dit Innocent III, le pape, à cette croisade qui a été détournée de Jérusalem contre Constantinople, non pas pour conquérir l'Empire de Constantinople, mais pour défendre ce qui nous reste en Terre Sainte et pour récupérer, si Dieu le veut, ce que nous y avons perdu. Et cela non pas pour obtenir de recherches temporelles, mais éternelles. Et puis, vous avez pris les trésors des églises, volé leurs biens, vous avez arraché les tables en argent de leurs autels, que vous avez brisés, vous avez profané les tabernacles, vous avez pillé les reliques. Donc bon, Nadim Saladin aussi, forte critique contre les impôts excessifs au détriment des chrétiens qui doivent subventionner croisade, avec cette idée qui apparaît déjà dans le livre d'Isaïe, qu'on n'offre pas des holocaustes. Le pillage ne peut pas faire partie de l'holocauste, du sacrifice offert à Dieu. C'est aussi un leitmotiv qui revient, puisque c'est un effort de guerre qui est très fort et qui est demandé aux chrétiens. Et Richard Cœur de Lyon, bien sûr, les Anglais savent percevoir des impôts bien mieux que partout à l'Occident, et Richard Cœur de Lyon ne s'en est pas privé pour la troisième croisade, et il a fait l'objet de critiques extrêmement fortes. Enfin, dernière cupidité, il y a bien sûr la luxure, chercher la femme, et une poitevine remarquable, un élan d'Aquitaine qui est parti en 1147 à la croisade, c'est à elle qu'on attribuera la défaite. Alors je reprends parce que c'est assez drôle, le jeu de mots d'un chanoine régulier anglais du Yorkshire, Guillaume de Lugbolov, qui écrit une trentaine d'années après l'échec de la seconde croisade, où Aliénor est parti avec son mari Louis VII. Les camps sont appelés castra, en latin, castrum au singulier, castra, camp militaire au pluriel, à cause de leur castration, castra, castratio, de la luxure. Or, les nôtres n'étaient justement pas chastes, casta, puisque Louis VII a amené sa femme et tout le monde est venu avec son épouse et avec des concubines, etc., des prostituées, alors que beaucoup, par une licence déplorable, y suaient la débauche de tous leurs porcs. Alors, à Aliénor, on lui attribue d'avoir eu, on lui attribue à tort, parce que je défendrai toujours, d'avoir eu une aventure avec son oncle paternel, Raymond de Poitiers, devenu prince d'Antioche. Mais ça dégénère, puisque 50 ans après la croisade, un partisan de Philippe Auguste, donc le grand ennemi des Plantagenets, le ménestrel de Reims, dira qu'elle avait même eu une aventure avec Saladin, pas de chance, en 1147, Saladin avait 7 ans, c'était remarquable, il y a un problème. Et puis, il y a aussi le mépris pour le poulain. Le poulain, c'est le descendant des Latins qui se sont installés sur place, et au bout de 2-3 générations, eh bien, ces gens, ces Levantins, font l'objet de critiques de la part des croisés. Les croisés arrivent avec beaucoup de ferveur, en voulant y découdre, et puis ils voient des gens qui, sur place, ils sont en minorité, ils apprennent l'arabe, ils négocient avec les musulmans pour... ils jouent sur les différends entre les Turcs et les Arabes, ils s'appuient sur les communautés chrétiennes d'Orient, sur les Chaldéens, sur les orthodoxes melkites, sur les monophysites coptes, etc. Et pour eux, c'est des gens qui sont, pour ces croisés, qui se sont pervertis au contact avec le mal, au contact avec l'islam, si vous voulez. Alors, je vous avais donné un texte d'un proche de Thomas Becket aussi, Raoul Lenoir, qui parle d'une façon très méprisante du patriarche latin de Jérusalem, Héraclius, hein, c'est un Auvergnat, mais d'après lui, il a pris tous les plis, tous les défauts des orientaux. Vous voyez, là, vous avez tous les pensifs sur le Levantin, l'oriental, il est fourbe, il est libidineux, il est abruti, il est paresseux, et puis il sent, hein, la stigmatisation olfactive des parfums. Il était porté en grande pompe sur une litière d'argent et d'or. C'est cet homme qui vient nous demander de l'argent pour faire la croisade, alors que lui, il a un train de vie extraordinaire, dont les balancements faisaient retentir les clochettes de façon dégoûtante. Il tout dégageait des odeurs multiples et variées qui collaient aux vêtements et qui donnaient mal au cœur. J'ai pu voir sa chapelle et je n'en verrai plus jamais une de si luxueuse. Il y a peut-être aussi des différences de rite, bien sûr, même si là c'est le rite latin, mais il a pu emprunter le patriarche latin des rites liés à l'église orientale. Aucun prélat occidental n'use d'un tel apparat. S'il s'adonnait là-bas un faste comme celui que nous avons pu voir ici de nos propres yeux, nous comprenons que Dieu ait manifesté tant de colère à leur égard. Vous voyez ? Donc des critiques qui ne sont pas radicales, fondamentales, essentielles comme les précédentes, mais qui ne mettent pas vraiment, hein, qui ne mettent pas vraiment en cause la croisade, mais ce qu'on critique, c'est la transgression de ces participants qui se devraient d'être moralement impeccables, un peu à l'image de ceux qui n'ont pas sacrifié à Mammon et à ses richesses, dont parlait l'anonyme de Glossburg, ils devraient avoir cette droiture d'intention, et finalement leurs péchés sont tels que la défaite contre l'islam, un peu d'après ce modèle cyclique que l'on retrouve dans les livres historiques de l'Ancien Testament, doit nécessairement leur arriver. Et donc, une remise en cause de la pureté de l'idéal. Alors, la mission, c'est très compliqué dans ses rapports avec la croisade. Je ne vais pas vous en parler, je passe vite à la conclusion générale, puisque je prie du retard. Et ce que je peux vous dire, pour terminer l'exposé, je laisse le mot de la fin au dominicain Lambert de Romans. Ce dominicain, en 1274, participe au concile de Lyon II. Et dans ce concile, on essaie de relancer la croisade après l'échec de Saint-Louis en 1270 à Tunis. Et Humbert fait la liste des critiques qu'il entend autour de lui contre la croisade. Donc c'est un témoignage d'autant plus intéressant que ça ne vient pas nécessairement d'une source intellectuelle, ça ne vient pas des écoles cathédrales, mais autour de lui entend tous ces critiques. Alors qu'est-ce qu'il dit une quinzaine d'années avant la fin, avant la chute de 1291 de Saint-Jean de Latran? Il dit d'abord que j'écoute trois arguments essentiels, et c'est exactement ma première partie. Le pacifisme du Christ remet l'épée dans le fourreau, l'acceptation de la mort par les martyrs, les guerriers, les légionnaires de la légion de Thèbes, avec Saint Maurice à leur tête, ont accepté d'être tués alors qu'ils avaient des armes, qu'ils auraient pu se battre contre leur bourreau. L'idée de la guerre juste aussi, il faut se défendre certes des Sarrasins, mais nullement les agresser en premier, pas de croisade préventive. Le providentialisme, Dieu ne souhaite pas la croisade, alors qu'il permet tant de malheur à ses participants, la noyade de Frédéric Barberousse en Cilicie, ou la captivité de Saint-Louis après la bataille de la Mansoura, puis sa mort de fièvre à Tunis en 1270. Et puis il reprend des arguments accidentels, hein, c'était ma seconde partie. À force de lutter contre les Sarrasins, on a néglige les Juifs, les païens mongols et les idolâtres baltiques, qu'il faudrait combattre en premier. Hein, les chevaliers teutoniques sont partis se battre contre les païens du Nord. Et on sait que les païens sont beaucoup plus faciles à convertir que les musulmans. Donc faisons un effort dans ce sens-là. La violence ne pousse pas les Sarrasins vers la conversion, mais au contraire, vers le rejet de la foi chrétienne. Quand nous les tuons, nous les envoyons en enfer au détriment de la charité. Et puis la mortalité. C'est vrai que quand vous partez en croisade, vous avez à peine 2 chances sur 3 de revenir vivant. Hein. Par naufrage, épidémie ou guerre, la mort du roi Louis IX, dit-il, fut un mal irréparable alors que sa vie était si utile pour l'Église. Et puis aussi la disproportion des moyens entre les Sarrasins qui sont sur place et les croisés qui combattent dans une terre lointaine. Donc il faut un effort de guerre d'autant plus considérable. Et puis l'impopularité de l'impôt, de la dîme saladine et de la difficulté donc de la percevoir. Voilà donc ces arguments, jusqu'à nos jours, ils existent, hein, à l'encontre de la Terre Sainte. Bon, je vous prends quelqu'un du XIVe siècle, John Gower, dans la Confession de l'Amant. Est-il juste de traverser la Méditerranée pour combattre et tuer les Sarrasins? Je cite l'Évangile, mon fils, et j'y dis que l'on doit prêcher et souffrir pour la sainte foi. Je n'y trouve pas tué. Par sa propre mort, le Christ a payé pour nous libérer par pure charité. Hein. Donc, cela réapparaît, bien sûr, dans la colonisation de l'Amérique. Vous connaissez tous la controverse de Valladolid, le rôle du dominicain Bartolomé de Las Casas, qui écrit des textes qui rappelle beaucoup ce que je vous ai lu, hein, quand il est élu évêque de Chiapas, en Nouvelle-Espagne, au Mexique. Et sur son lit de mort, il demande au pape d'excommunier quiconque justifierait la guerre contre les infidèles sous prétexte de leur idolâtrie ou de favoriser qu'on leur prêche. Les païens ne nous ont jamais fait le moindre mal. Hein. C'est une idée qui apparaît très vite, je n'ai pas eu le temps de le développer. Pierre Abélard dit: les bourreaux du Christ, s'ils n'avaient pas exécuté le Christ, auraient commis un péché, parce que leur conscience leur disait d'obéir à leur supérieur et de faire leur métier, vous voyez. Donc là, on est dans la primauté de la conscience individuelle, et même les païens, s'ils suivent sa conscience, peuvent se sauver, etc. Donc ce n'est pas la peine de lui imposer par la force quoi que ce soit. Et puis aussi, dans la controverse de Valladolid contre Sepúlveda, Bartolomé de Las Casas a souligné l'absurdité de la violence contre, et de l'asservissement surtout des Indiens. Alors, je finirai bien sûr, puisque c'était il y a une quinzaine d'années, mais ces minorités agissantes sont arrivées jusqu'à nos jours. Et vous le savez, autour de l'an 2000, le pape Jean-Paul II a fait une sorte de mea culpa. Il a demandé aux chrétiens de faire un examen de conscience et de demander pardon à Dieu pour les péchés de leurs prédécesseurs au nom de la communion des saints, nous ne pouvons pas manquer de reconnaître les infidélités à l'évangile qu'ont commises certains de nos frères, en particulier au cours du second millénaire. Alors, je ne sais pas si c'est une critique de la croisade, mais ça lui ressemble pas mal. Demandons pardon pour les divisions qui sont intervenues parmi les chrétiens, pour la violence à laquelle certains d'entre eux ont eu recours dans le service de la vérité, et pour les attitudes de méfiance et hostilité adoptées parfois à l'égard des fidèles d'autres religions. Merci pour votre attention.